Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on s'offre une respiration philosophique. On tente de briser la course en avant, la marche inéluctable du progrès pour mieux le questionner et repenser notre rapport à la technique. On s'affranchit de la tyrannie de l'instantanéité pour une plage salutaire de réflexion et de silence. Un silence voué à disparaître dans nos pratiques du numérique. Comment réintroduire le débat citoyen, la controverse dans le déploiement technologique? Nous verrons comment les philosophes du siècle dernier peuvent éclairer notre actualité, du développement de la vidéosurveillance algorithmique à la société de la trace qui sacrifie le droit à l'oubli. Comment les citoyens du cyberespace que nous sommes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour s'organiser et échapper à l'indignation stérile? Comment garder espoir et ne pas sombrer dans le technopessimisme? La dimension artistique peut-elle être un échappatoire? En un mot, comment cultiver un rapport plus éthique au numérique? Beaucoup de questions et un sociophilosophe pour y répondre tout en nuance. Pierre-Antoine Chardel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences sociales et d'éthique à l'école de management de l'Institut Mines-Télécom et chercheur statutaire au laboratoire d'anthropologie politique du CNRS, école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes également membre des comités de rédaction de la revue politique et parlementaire et de la revue études digitales. C'est déjà beaucoup, mais vous êtes également l'auteur de Sociophilosophie des technologies numériques, éthique, société et organisation paru l'an dernier aux presses des Mines. Nous allons passer une heure ensemble pour mieux cerner vos travaux et explorer avec vous les enjeux sociophilosophiques et éthique de l'ère numérique. Vaste programme, également au menu du soir, la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie nous parlera de sa fatigue du numérique, un espace où le fun aurait disparu. Et Juliette Deveau nous livrera comme chaque semaine les nouvelles d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it.
Big brother, we don't love you no more.
Les sénateurs se penchent sur le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques. Celui autorisant l'expérimentation de caméras de surveillance dotées d'algorithmes et qui entrerait en vigueur dès cette année.
Il n'y aura aucune prolongation de cette expérimentation sans une évaluation précise, transparente de la CNIL.
Un comportement anormal, ça n'existe pas. C'est la police qui définit ce qui est anormal ou suspect selon ses propres préjugés, selon ses propres stéréotypes et ses propres objectifs politiques.
Ces évolutions, on les regarde pas ni positivement ni négativement, on les regarde d'abord parce qu'elles sont là et on essaye d'y inventer des disciplines, des règles, des façons de vivre qui soient vivables, voilà, habitables.
Et voilà, il y aura une sorte d'épicurisme technologique à trouver, c'est-à-dire d'une capacité à distinguer les désirs vains, les désirs superflus, des désirs fondamentaux.
Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Libre de quoi ?
Alors, vous avez sans doute reconnu des voix qui vous sont chères, Jacques Ellul, Bernard Stiegler, Alain Damasio, un philosophe, un sociologue, un artiste, romancier, un montage transdisciplinaire comme votre approche sociophilosophique, Pierre-Antoine Chardel. En quoi d'ailleurs est-elle nécessaire pour penser la technologie ?
Alors, cette approche sociophilosophique, elle me paraît essentielle pour se saisir des technologies, non pas simplement de façon abstraite, non pas simplement pour en faire l'objet d'un questionnement philosophique, mais néanmoins, dans mon travail et dans mes ouvrages, je me rends compte que les questions philosophiques qui sont posées par les technologies, en particulier les technologies numériques, questions philosophiques telles que la question du sens, des valeurs, des horizons possibles, eh bien, implique d'être situé autant que possible d'un point de vue sociologique, d'être situé socialement dans des contextes à chaque fois différents, qui nous renvoient à chaque fois à des questions aussi différentes. Je vais prendre un exemple, la question de la 5G ne pose pas les mêmes questions d'éthique que l'on se situe dans un contexte médical. ou bien dans un contexte de société de surveillance, par exemple. Donc ça veut dire que, pour moi, il ne s'agit pas simplement de penser philosophiquement la technique, d'en faire un objet, de faire de la philosophie de la technique, mais de se rapprocher autant que possible du réel social, ce que j'appelle le réel social concret, avec ses contradictions, ces paradoxes.
Ces nuances, justement, pour tenter d'échapper au manichéisme un peu qu'on a souvent, enfin qu'on a parfois sur le discours, un discours un peu totalitaire comme ça sur la technologie, soit d'un angélisme débordant, soit d'un technopessimisme un peu systématique.
Oui, c'est une vieille histoire, hein, cette opposition entre la technophobie d'un côté, la technophilie de l'autre. En sachant que la technophilie, enfin les discours qui glorifient la technique, les technologies, l'innovation sont quand même assez massifs. Ils sont prépondérants, je dirais, aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce discours critique, parfois, il frôle la technophobie. Mais je tiens à développer une approche critique qui soit au plus près des ambivalences technologiques et qui nous incite toujours à tenter de discerner autant que possible ce qui est à l'œuvre dans une technologie, mais surtout ce qui est à l'œuvre dans les pratiques technologiques.
Mmh. D'où le terrain sociologique, effectivement, d'où l'importance du contexte et de l'usage.
Absolument, parce que d'une certaine manière, on ne rencontre jamais les techniques ou les technologies seules, on rencontre des pratiques technologiques. Et c'est ce qui me semble assez peu suffisamment développé, au moins, à tout le moins dans le débat français, par rapport aux technologies, c'est qu'on a tendance à en faire un absolu. On parle d'ailleurs beaucoup de la technologie ou de l'innovation.
On parle aussi d'ailleurs beaucoup de révolution technologique. Je suis moi-même tombé dans ce piège de cette formule qui marche très bien. Essayer de comprendre ce qui se joue dans notre révolution numérique. Vous préférez le terme métamorphose numérique. Expliquez-nous.
Alors le terme de métamorphose, en effet, me tient à cœur parce qu'il exprime l'idée d'un processus. L'idée aussi de la durée. Par rapport aux technologies, c'est une façon de dire que les technologies n'arrivent pas de nulle part, qu'il n'y a pas un surgissement technologique, mais qu'elles sont le fruit d'une longue histoire, une histoire de l'informatique, là en l'occurrence pour le numérique, et que une histoire aussi des technologies de l'information et de la communication, et que les situer dans le temps long permet de gagner en distance critique et en discernement. Et surtout, ça permet d'éviter l'effet de sidération.
Mmh. Hein? Oui, c'est vrai que ce qui est une révolution, elle s'impose à nous. Tandis que dans la notion de métamorphose, il y a cette idée aussi du sensible.
Il y a cette idée du sensible, aussi l'idée d'une maturation. Mmh. Et cette idée que la métamorphose, qui peut, à beaucoup d'égards, nous déstabiliser. Un grand philosophe allemand, Günther Anders, hein, qui a écrit dans les années 50 « L'obsolescence de l'homme », qui disait les technologies vont trop vite par rapport à la capacité que nous avons, en tant qu'être humain, à pouvoir s'en saisir. Donc il y a comme une sorte de décalage entre la vitesse du déploiement technologique et la métamorphose de l'âme que les technologies engendrent. On a de quoi être déstabilisé. On a de quoi être surpris. Pour cette raison, d'autant plus important d'essayer de faire preuve de sérénité, mais aussi de créativité par rapport à ces environnements technologiques qui sont très complexes et qui demandent de savoir raison garder, c'est-à-dire de les appréhender, non pas simplement comme des objets de consommation, mais de les appréhender comme des objets de culture. Et de les réinvestir d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire elles sont le fruit d'imaginaire. Mmh. On peut retrouver aussi des grands mythes fondateurs qui nous renvoient beaucoup à notre présent technologique, hein, si on pense au mythe de Prométhée, au mythe d'Icare, etc. Et c'est une façon de dire que les technologies sont investies d'un point de vue symbolique et que le décryptage de ces dimensions symboliques, de ces imaginaires, permet de dire que finalement, ce qui nous arrive avec les réseaux sociaux, avec la surveillance globale, finalement, s'inscrit dans le temps long et renvoie aussi à des repères qui peuvent nous servir à analyser, à décrypter avec plus de calme, plus de sérénité, ce qui nous arrive avec les technologies et ce qui parfois nous submerge, il faut bien le dire, hein, tellement la vitesse du déploiement technologique, en particulier à l'ère numérique, est considérable.
Voilà, justement, c'est pour ça que je me suis amusé à créer un petit silence en début d'émission pour se forcer à s'arrêter et à prendre un peu de hauteur. Alors, pour peut-être comprendre comment votre pensée s'incarne dans un exemple concret, vous avez cité le mot de surveillance, je vous propose d'écouter les propos de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était très récemment, il y a quelques jours, cette semaine, sur France 3. Elle parlait de ce projet que vous avez forcément suivi, de cette loi qui a été votée pour l'usage en fait des caméras de vidéosurveillance qui utilisent des algorithmes, la vidéosurveillance algorithmique, une expérimentation donc censée durer que quelques années mais qui pourrait bien s'inscrire dans la durée. On l'écoute.
C'est une expérimentation qui est menée sous le contrôle vigilant, attentif de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et évidemment il n'y aura aucune prolongation de cette expérimentation sans une évaluation précise, transparente de son efficacité au regard des enjeux de sécurité
donc
de notre pays.
Il est possible que cette loi devienne pérenne à terme.
Si ça fait ses preuves et entouré de toutes les garanties, on les avait comptées avec Gérald Darmanin au Parlement, 28 garanties entourent ces dispositions. Et les Français attendent de nous qu'on agisse pour leur sécurité et qu'on fasse usage des moyens nouveaux, y compris numériques, pour favoriser cette sécurité.
Donc les Français en ont envie, les Français en ont besoin, donc un peu un argument d'autorité en disant que la population attend ces technologies. Là, elle fait référence donc à l'intelligence artificielle, à des caméras dites intelligentes. En quoi cette vidéosurveillance algorithmique est donc potentiellement un contrôle biométrique à terme, c'est-à-dire l'analyse potentiellement de nos données, de notre démarche, de tout ce qui fait finalement notre identité, peut poser selon vous un problème d'éthique?
Alors un problème d'éthique majeur, mais encore une fois, il faut situer le problème dans les différents contextes dans lesquels il se pose. Je dirais que cette question de la vidéosurveillance algorithmique, elle pose premièrement un problème d'accoutumance qui serait rendu possible. Ce serait un risque que l'exception devienne la règle. C'est un premier point. Un deuxième point est pas simplement lié au dispositif technologique en tant que tel, mais est lié plutôt à celui des critères de dangerosité qui seraient derrière en fait cet usage technologique. Qui va fixer ces critères? Et en fonction, là en l'occurrence, puisqu'il s'agit de reconnaissance de forme, des mouvements, en fonction de quels mouvements vont être considérés comme
dangereux. Voilà, c'est ça, parce que quand on parle du texte, le texte parle de mouvements suspects, de comportements anormaux. Or, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère comme étant suspect et anormal. C'est là où, effectivement, il y a une vision très subjective.
C'est très subjectif, donc c'est une façon de dire que dans ces systèmes technologiques, il y a beaucoup de subjectivité, contrairement à ce qu'on peut penser. On délègue cela à des algorithmes, donc on se dit, globalement, c'est la machine qui va faire le travail. Et c'est là où commence le problème éthique, puisque ces machines sont accompagnées potentiellement d'orientation, de direction. Toutes ces machines sont fabriquées, sont construites. Et surtout, qui va, encore une fois, fixer la dangerosité, les comportements à risque? En fonction de quels critères? En sachant qu'il s'agit ici, alors on nous explique qu'il s'agit d'assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques, c'est très consensuel, hein. Qui serait pour qu'il n'y ait pas de sécurité pendant les Jeux Olympiques? Et en même temps, quand on lit ce projet de loi, on se rend compte que ça implique aussi des manifestations, certes sportives, mais aussi récréatives ou culturelles.
Oui, parce que il y a dans les différents critères qui actionnent l'automatisation finalement de ces caméras, on a effectivement le regroupement d'individus ou de foules. On peut appeler ça une manifestation en fait.
Exactement. La foule, le rassemblement des corps, c'est une façon de faire politique. Hein, et ça l'a toujours été, ça l'est toujours et ça le sera toujours. Donc, à partir de quel moment le rassemblement deviendra suspect? Et si on pense, je parlais des manifestations culturelles, on pourrait imaginer ce type de dispositif, pourquoi pas, pour le Festival d'Avignon. Alors, qu'en serait-il d'un événement culturel artistique qui imposerait un système de surveillance algorithmique dont on que l'on présente de façon très indolore, c'est-à-dire que il ne s'agit que des formes, il ne s'agit que des comportements, il ne s'agit pas des visages, il ne s'agit pas de reconnaissance faciale.
Voilà, pour l'instant, pour être quand même assez précis, il y a des garde-fous dans ce texte qui exclut pour l'instant la reconnaissance faciale, une technologie dont on a pu entendre parler évidemment avec le cas chinois qui est un cas toujours d'école pour exposer les dérives sécuritaires qui peuvent se passer dans ce pays. Il n'y a pas qu'en Chine où il y a un usage de la reconnaissance faciale. Pour l'instant, en tout cas, la reconnaissance faciale n'est pas inclue dans ce texte. Après, beaucoup disent qu'on en prend un peu le chemin, que c'est déjà une première étape d'avoir cette vidéosurveillance algorithmique et que demain, ça sera sans doute la reconnaissance faciale. Ce qui pose donc la question de la perte potentiellement pour les individus de leurs propres données, de leur propre corps. Vous avez d'ailleurs cité à deux reprises le mot du corps, le terme de corps, c'est une notion sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
En effet, à travers ces dispositifs, on peut entrevoir le risque de voir le corps, bien sûr, soumis à un effet de numérisation, c'est le corps numérisé qui vient à produire du signal et qui, à partir de là, est analysé, intégré à des dispositifs de surveillance. Autrement dit, c'est le corps qui est finalement réduit à l'état de signal, alors même que le fait d'être ensemble, l'organisation de l'espace public, nous renvoie à notre condition d'être parlant. Enfin, la citoyenneté, la vie politique, c'est ce qui s'institue par le fait de parler, donc par le monde des signes. Ici, on assiste de façon très insidieuse à une réduction, en fait, du statut même de l'humain, puisque l'humain ne serait plus considéré comme un être de signes, mais comme étant un support numérisable d'un signal. Un autre problème éthique que je perçois est cette difficulté, vous l'avez un peu dit, de la part de la société civile à s'emparer de ces problématiques. Déjà parce que ce sont des technologies qui sont assez complexes. Donc il faut regarder de près et avoir la chance de pouvoir interagir avec des ingénieurs pour bien comprendre de quoi il s'agit.
Là, il y a un problème effectivement d'explicabilité, en fait, à deux niveaux d'ailleurs, de la technologie pour bien la comprendre, et puis même ceux qui en sont les artisans parfois ne parviennent pas eux-mêmes à comprendre comment elle fonctionne. Là, je parle en l'occurrence des algorithmes et de l'intelligence artificielle.
C'est encore, en effet, une boîte noire pour beaucoup des chercheurs qui travaillent sur ces enjeux. Qui sont très conscients de l'opacité en fait que ces dispositifs technologiques induisent. L'autre problème que je voulais signaler était aussi le fait que on a affaire à des dispositifs qui sont relativement invisibles pour les citoyens, et c'est bien là l'enjeu d'une possible accoutumance. Puisqu'on a affaire à des dispositifs qui ne sont pas immédiatement visibles, alors ça crée une forme d'accoutumance, de familiarisation avec des dispositifs qui ne laissent pas de prise. Autant une mesure anthropométrique pouvait être choquante et donner immédiatement cette impression de réification, autant si on parle de la biométrie, on a affaire à des dispositifs qui sont très innovant.
Oui, il y a vraiment cette idée un peu de la transparence, avec toujours cette même promesse qu'on entend, et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de l'argument un peu démagogique, c'est-à-dire on vous offre une sécurité, une promesse de sécurité, et ce qui vous échappe peut-être de votre liberté, vous ne le voyez pas, donc ça ne vous impacte pas, donc vous ne retenez finalement que la garantie, que la promesse de sécurité.
Et ceci au nom donc d'une innovation qui est censée améliorer la société et améliorer notre condition hypermoderne. Ce qui me paraît aussi important de mentionner, c'est que ces technologies instituent en quelque sorte un état de suspicion permanent. Et c'est bien cette dimension qui me paraît être particulièrement problématique.
Alors, suspicion des citoyens entre eux, suspicion de l'autorité face aux citoyens.
De l'autorité face aux citoyens, c'est-à-dire que ce que l'on perd, c'est une valeur fondamentale de l'être ensemble, de la société, dans sa dimension bien sûr démocratique, c'est la valeur de confiance. Or, on sait qu'une société ne peut pas tenir sans confiance. Faire société, cela repose sur un minimum de confiance, et c'est la confiance qui est une composante aussi essentielle du lien social.
Alors après, on pourrait dire, si je me fais l'avocat du diable, qu'il y a un lien de confiance du citoyen face à l'autorité, face à la loi qui est censée le protéger. Quand la loi dit « on fait ça pour votre bien » et on vous garantit d'ailleurs qu'on n'ira pas jusqu'à la reconnaissance faciale ou l'analyse des données biométriques, quelque part c'est un lien de confiance, c'est une confiance, c'est le propre même de la loi qui fait société, de la démocratie. On fait confiance à une autorité parce qu'on croit en elle.
Après, on peut faire confiance, on peut faire preuve d'une confiance aveugle, et on peut faire preuve d'une confiance en connaissance de cause. Et c'est là où intervient l'importance de l'éthique du numérique, parce que la confiance, finalement, par rapport à tous ces environnements numériques, on se rend bien compte qu'elle doit être outillée, au sens où on doit développer des capacités de compréhension des outils qui définissent nos environnements numériques, et que c'est par cette appréciation des dispositifs techniques eux-mêmes que l'on peut en effet gagner en confiance. Mais il y a une confiance aveugle, c'est un peu celle qui a été décrite par Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, où l'État s'occupe, la puissance tutélaire s'occupe de tout, de nos moindres divertissements, de nos loisirs, de notre vie quotidienne. Et c'est bien là que commence, en quelque sorte, la fin de la démocratie ou son amollissement. Ce moment où la citoyenneté n'est plus régie par des connaissances, par non seulement on ne connaît pas bien les textes de loi, mais surtout on ne connaît pas comment sont fabriquées, comment sont conçues des technologies qui ont un impact sur nos libertés et sur en fait les effets de contrainte que ces technologies peuvent créer.
Alors vous dites on ne connaît pas effectivement ces technologies, mais même ceux qui font la loi connaissent pas forcément très bien non plus ces technologies. On voit qu'on a une faillite ou une défaillance en tout cas de la connaissance scientifique, de la connaissance des enjeux technologiques chez nos parlementaires, même s'ils ont tendance à se rajeunir, même si c'est une nouvelle génération qui arrive. Néanmoins, on le voit et on l'observe.
Et ça, c'est un problème majeur, je crois, de la démocratie aujourd'hui. C'est que nous sommes dans des sociétés technologiques, mais sans avoir les moyens de comprendre réellement les enjeux éthiques et politiques liés au déploiement technologique. Donc là, il est nécessaire de réformer de façon très, très fondamentale nos systèmes éducatifs, nos façons de devenir politique qui devraient intégrer beaucoup plus de réalité technologique. Aussi, les citoyens eux-mêmes devraient idéalement pouvoir se mettre à jour sur leurs connaissances techniques et scientifiques, de façon après à pouvoir débattre en connaissance de cause. Parce qu'on pourrait dire, on a en effet besoin de concertation, on a besoin de controverses, mais encore faut-il avoir les armes pour s'emparer de ces dispositifs. Alors là, j'ai quelques idées par rapport à cette ambition. Il me semble qu'il serait important de développer ce que j'appelle des universités populaires du numérique, que l'on pourrait voir se déployer à l'échelle du territoire français dans les écoles d'ingénieurs. On a environ 200 écoles d'ingénieurs qui pourraient accueillir du grand public pour se mettre à jour sur des connaissances, qui pourraient aussi permettre, ça c'est un point qui me paraît très important, aux ingénieurs eux-mêmes, aux élèves ingénieurs, de se rendre compte à quel point les innovations qu'ils conçoivent ou qu'elles conçoivent ont un impact sur les modes de vie, sur la société, sur nos modes d'existence, puisque on le voit bien à quel point nos technologies induisent des modes de vie, induisent des modes d'existence, voire imposent des modes de coexistence, et que par rapport à cela, nous restons encore extrêmement naïfs et sans prise.
D'où la nécessité de développer dans ces écoles d'ingénieurs, ça a été l'objet d'ailleurs d'une de nos dernières émissions, une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire de ne pas avoir juste une pensée ingénieur qui serait dans une sorte de déterminisme technologique, mais d'avoir aussi une approche sur les sciences sociales et de comprendre ce que la technologie fait à la société.
Bien sûr, c'est absolument essentiel. On développe beaucoup ces dimensions-là au sein de l'Institut Mines Télécom, par exemple. On ne sépare pas le développement de capacités techniques d'un certain sens critique, d'une capacité à problématiser les implications politiques, démocratiques et éthiques des technologies. C'est absolument essentiel, en effet, de proposer ce qu'on peut appeler, avec Gilles Deleuze, des agencements collectifs pour s'emparer de la complexité aussi. C'est un autre point que je développe dans le livre « Sociophilosophie des technologies numériques », c'est que on ne peut pas s'emparer de la complexité technologique tout seul. On ne peut pas être, à moins qu'on soit à la fois ingénieur, designer, philosophe, sociologue, historien.
Mais là, ça ressemble à un patron d'une start-up ou d'une grande structure qui se prend effectivement pour un être omniscient, ce qui n'est pas le cas.
Ou Léonard de Vinci ou Pic de la Mirandole.
Exact. Juste pour peut-être clore ce chapitre de la vidéosurveillance, on a parlé donc du pouvoir législatif et de ses éventuelles défaillances par rapport à la culture du numérique. On peut aussi parler du pouvoir industriel qui sous-tend aussi ces lois avec une force de lobbying très importante. On sait qu'il y a un énorme marché de la surveillance. On peut citer Thales, Safran, pour les entreprises françaises européennes, IBM évidemment. J'ai envie de reprendre presque la question que vous posez vous-même au philosophe américain Andrew Feinberg dans la postface du livre que vous venez de mentionner. Est-ce que le pouvoir des marchés et des logiques industrielles ne crée pas au fond une forme de déterminisme technologique ?
Alors, peut-être pas de déterminisme, mais en tout cas, c'est évident que ces marchés redéfinissent en grande partie les jeux de pouvoir et que, avec les environnements technologiques, on a affaire à du politique. Hein, on a des idéologies aussi du tout numérique qui sont portées par l'État, hein, par l'État plateforme notamment. Cette vision de l'État qui serait idéalement numérisée, je dirais. Mais bien sûr, on rencontre ici des jeux de pouvoir industriels, hein, qui sont très clairement liés au capitalisme industriel et qui interviennent, bien sûr, dans le déploiement de systèmes de surveillance, par exemple, et qui jouent un rôle considérable dans l'acceptation et dans la diffusion de ces technologies. Donc la complexité dont je parlais à l'instant, elle renvoie aussi à ces jeux de pouvoir qui sont à la fois politiques, qui sont à la fois capitalistiques, qui sont à la fois industriels, qui interviennent dans la configuration de nos espaces de vie. Notre espace de vie sociale, c'est très concrètement le fait de plus avoir de parcmètres dans les grandes villes, puisque désormais, pour payer un stationnement résident, il faut mieux avoir une application, donc il faut nécessairement avoir un smartphone. Alors c'est là, en effet, que vous avez raison, que naît malgré tout un certain déterminisme socio-technique.
Et puis, puisque vous prenez cet exemple du parkman, si les voitures sont plus forcément à la mode, mais il y a aussi cette idée de ne plus pouvoir échapper finalement à la sanction. C'est-à-dire que pendant un moment, on se garait, il y avait une sorte d'aléatoire de l'humain qui passait ou qui ne passait pas. Là, on voit qu'il y a un contrôle constant, c'est-à-dire que la voiture automatisée avec sa caméra, de toute façon, va passer, va nous capter. Ce qui nous ramène finalement à cette idée de la société de la trace où l'individu peut difficilement se faire oublier. Alors, se faire oublier pour une légère infraction comme celle-ci, qui est d'une voiture mal garée, mais tout simplement ne peut plus avoir le droit à l'oubli. Pour citer Nietzsche, que vous reprenez dans votre livre, « Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans faculté d'oubli. »
En effet, cette faculté d'oubli, elle est fondamentale à la condition humaine, cette capacité de se délester, de pouvoir oublier un peu, pour mieux devenir, en quelque sorte que le devenir, cette idée que le devenir est conditionné par l'effacement des traces. Et aussi, il renvoie à cette idée que les traces numériques que nous laissons tous les jours sont de nous, mais ne sont pas nous. Et que nous sommes plus complexes, nous ne sommes pas réductibles à l'ensemble de nos traces. Et que l'individu est beaucoup plus complexe parce qu'il est un être sensible, parce qu'il est un être qui a besoin de faire le tri aussi par rapport à sa propre mémoire, et que nous évoluons, nous changeons sans cesse, hein, comme disait Henri Bergson, nous changeons sans cesse, et c'est pour cette raison que nous pouvons aussi nous réaliser en tant qu'individu. Or, un grand risque de ces systèmes techniques, c'est de figer en quelque sorte l'identité, et de figer aussi les interactions humaines et sociales. Hein, quand je pense à cet exemple que vous avez donné, En effet, on commet une infraction, on n'a pas payé notre stationnement. Immédiatement, notre plaque est de toute façon scannée. On n'est plus face à de l'humain, on est face à un système de machine à machine. Et on est là totalement pris dans les mailles, je dirais, de la cybernétique. Hein, l'idéal de la cybernétique, c'était quand même, notamment, hein, c'était très complexe, mais notamment, ça renvoyait à cet idéal d'échange de machine à machine. Et c'est bien cela qui nous dépossède. Et c'est bien cela aussi, je pense, qui crée une certaine forme d'insignifiance, c'est-à-dire de perte de sens, de perte de contrôle, de perte de maîtrise de notre quotidienneté. Ce que je dis, c'est qu'il s'agit de micro-événements qui, peu à peu, génèrent de l'insignifiance. Ce que Castoriadis appelait, par rapport à d'autres contextes, une montée de l'insignifiance, qui me paraît très palpable aujourd'hui, par rapport à ces petits gestes du quotidien qui sont appauvris ou qui sont, en l'occurrence, numérisés et qui ne donnent pas de prise pour celles et celui qui souhaiterait contester, discuter.
Bifurquer. Même.
Bifurquer.
Et bifurquer, changer de trajectoire. Dernière question avant de partir en musique, comme l'on disait dans les années 80. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des stratégies de contournement, de détournement de cet individu pour donner justement un petit peu d'espoir à cet individu qui n'est que quantité de données? On a compris qu'aujourd'hui, dans cette société de la trace, c'était dur d'y échapper. Néanmoins, on peut peut-être essayer de perturber le système. On voit par exemple que beaucoup d'individus vont se créer de multiples identités numériques, des identités de genre différents, changer de nom, avoir recours au pseudonymat, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans cette loi actuellement qui est discutée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas ça finalement, le braconnage un peu à la Alain Damasio, c'est-à-dire arriver à trouver des subterfuges pour arriver à faire dérailler la machine? Car la machine, elle est pas si intelligente que ça quand même.
Je crois qu'en effet, vous avez tout à fait raison, hein, d'assumer le jeu de la pluralité des identités est une façon de faire face à cette tentative de nous identifier une fois pour toutes. Hein. Il y a un très beau texte de Maurice Blanchot qui s'appelle « La terreur de l'identification » et qui met bien en évidence ce qu'il y a d'oppressant à être identifié une fois pour toutes. Et donc il y a aussi une liberté qui passe par le fait de pouvoir s'identifier de façon plurielle, hein, d'exprimer la pluralité des identités. C'est aussi un thème qui est cher à Nietzsche, hein, cette idée que le sujet est une fiction, le sujet que l'on peut identifier une fois pour toutes est une fiction, et que je pense que c'est là où la philosophie, évidemment, est importante, parce qu'elle nous rappelle à ses fondamentaux, à cette idée que, oui, nous sommes pluriels, que nous avons besoin de pouvoir vivre dans plusieurs territoires existentiels, hein, comme disait Guattari. Et cette idée philosophique, cet idéal philosophique, qui est aussi un idéal existentiel, est évidemment mis à mal aujourd'hui par une volonté de développer l'identité numérique, de faire fusionner, il y a ce projet que je trouve très inquiétant, de fusionner l'identité numérique avec nos informations de santé.
Oui, de toute façon, vous avez parlé justement tout à l'heure de l'Ethel Platform, c'est cette idée qu'on ne soit plus qu'un numéro d'immatriculation, finalement un numéro d'identification pour pouvoir accéder à une multitude de services. Et là, quand je parlais de la multiplicité d'identité, c'est sur des réseaux qui le permettent. Encore faudrait-il que justement, en tant que citoyen innumérique, on puisse se réfugier derrière plusieurs identités, ces identités multiples. Elle aussi, elle en parle dans ses chansons. Une chanteuse belge, mais européenne, qui s'amuse à raconter le monde numérique qui l'entoure et qui en fait parfois des chansons mêlant haine, amour et danger, cette Angèle.
France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker une fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, amour et danger, dans un objet, tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un
Dans le meilleur des mondes, Angèle, haine, amour et danger. Tout de suite, Juliette Deveau.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on commence ce journal avec les annonces attendues de Mark Zuckerberg lors de son événement annuel, la Meta Connect, il y a 2 jours. Alors que le groupe avait initié un virage stratégique important en 2021 en promettant le développement rapide et révolutionnaire du métavers, un monde immersif entièrement connecté, le créateur de Facebook semble vouloir tourner la page après seulement 2 ans. Comme le relatent les journalistes de Numérama, Mark Zuckerberg n'a évoqué le métavers qu'avec parcimonie au bout de 33 longues minutes de conférence contre des dizaines de fois en 2022. Un revirement stratégique qui relève du pragmatisme économique. Meta n'a pas su convaincre avec son monde virtuel Horizon World et en a subi les conséquences économiques. Reality Labs, la filiale qui développait les applications pour le métavers, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022 et les pertes devraient encore s'accroître en 2023. Sans surprise, Mark Zuckerberg s'est plutôt focalisé cette année sur l'intelligence artificielle, mais également sur son casque de réalité virtuelle, le Quest 3, qui pourrait à terme permettre la généralisation d'usages spécifiques et ponctuels de la réalité virtuelle, loin de l'hubris d'un monde connecté entièrement immersif.
Et on peut que mieux s'emporter de voir le métavers disparaître un petit peu de notre quotidien. Et on continue ce journal, Juliette, avec des data détectives au service de la science.
C'est un portrait à retrouver dans le Wall Street Journal de 3 universitaires, un Espagnol et 2 Américains, qui s'attachent depuis 2013 à détecter et révéler les fraudes dans les articles universitaires grâce à un site internet du nom de Data Colada. Grâce à l'analyse des données présentes dans les articles scientifiques, ces 3 chercheurs parviennent à détecter lorsque des auteurs des publications manipulent les données pour aller dans le sens de leur thèse. C'est ainsi que cet été, ils sont parvenus à faire tomber de son piédestal une prestigieuse universitaire du nom de Francesca Gino, spécialiste de l'économie comportementale qui s'est rendue coupable de fraude dans plusieurs de ses articles récents. Dans le contexte de défiance généralisée envers la science, on ne peut que se réjouir de cette initiative qui prouve l'utilité concrète de l'open data et des collaborations transnationales permises par le numérique.
Et on termine ce journal en allant du côté de Marseille pour découvrir un festival un peu spécial qui se tient en ce moment.
Et oui, c'est un festival qui n'est pas consacré à la musique ni au cinéma, mais à la technopolis. Et on doit cette initiative à l'association La Quadrature du Net qui alerte sur les dérives de la technosurveillance depuis des années. Créé en 2022, ce festival qui se tient en ce moment même et jusqu'au 1er octobre à Marseille a pour objectif de recenser et contrer les technologies de surveillance policière déployées dans nos villes. Au menu de cette 2e édition, émission ouverte hier, des débats consacrés à l'adoption de la loi sur la vidéosurveillance pour les JO dont vous avez parlé dans l'émission, des projections sur le sujet, mais aussi, plus original, une balade cartographique des caméras de vidéosurveillance dans certains quartiers marseillais. Un festival atypique qui sonne comme un appel des citoyens aux gouvernants trop souvent enclins à contourner l'avis de la société civile lors des déploiements technologiques de grande ampleur.
Le journal d'un monde meilleur à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Nous sommes toujours ce soir en compagnie de Pierre-Antoine Chardel, qui est un philosophe mais aussi un sociologue et développe justement une approche qui entremêle ces deux approches pour nous raconter le numérique, auteur de Sociophilosophie des technologies numériques paru aux presses des Mines, et nous discutons ensemble depuis le début de cette émission et nous naviguons à travers les différents enjeux du numérique. Pour rebondir sur le journal de Juliette, alors non pas de parler de vidéosurveillance car nous l'avons déjà évoqué en début de cette émission, mais c'est plutôt sur la question de l'intégration des citoyens dans la discussion. Là on voit que ce festival permet des tables rondes, a même une approche ludique pour impliquer tout à chacun, pour mieux comprendre, pour rendre visible aussi l'invisible, hein, parce que je pense que c'était tout l'objet de cette cartographie des caméras, on ne les voit pas, mais il faut voir justement les outils de surveillance, on peut même parler de sous-veillance. Je sais que vous connaissez cette thématique qui a été développée par Jean-Paul Fromentreau, mais comment on peut réintégrer la population dans les débats sur le numérique?
Alors justement, je pense que les pratiques de l'art ont beaucoup à faire par rapport à cela, d'impliquer les citoyens dans le cadre de festivals comme celui qui se tient à Marseille, que vous venez de mentionner. C'est une façon de dire qu'on peut semer le trouble dans notre rapport aux technologies, que les technologies sont pas simplement des technologies de surveillance, de sécurité, d'identification, mais que l'on peut jouer avec les technologies. Et cette dimension-là me paraît très importante et portée par la création qui s'empare des technologies et qui donne à penser, c'est-à-dire ça donne à réfléchir aussi aux citoyens pour sortir les technologies de l'ornière de la pure rationalité instrumentale, c'est-à-dire la rationalité instrumentale, c'est choisir les moyens les plus efficaces pour parvenir à une fin donnée, hein. C'est la définition qu'en donnait notamment Habermas. C'est-à-dire que la technologie est beaucoup vue par le prisme de l'efficacité, de la rentabilité, de la productivité, la quantification, etc. Or, les technologies peuvent elles-mêmes devenir un enjeu de détournement, et jouer avec les technologies, c'est une façon aussi de garantir une liberté de faire autrement. Et comme je le dis dans mon livre, la liberté aujourd'hui n'est pas simplement celle de parler, même si elle est évidemment excessivement fondamentale, mais elle est cette capacité de faire parler nos environnements numériques, de faire parler les images, de faire parler les flux, et aussi de les rendre visibles, de rendre visibles les dispositifs qu'ils ne sont pas habituellement. Donc, de gagner en visibilité permet aussi de développer notre perception et par conséquent de développer notre possibilité de nous indigner. Il est très difficile de s'indigner vis-à-vis d'une situation que l'on ne voit pas. Ou de s'engager, hein, on le sait dans le contexte de la crise climatique, hein, le fait de ne pas voir. Et plus on voit, et plus la perception aussi s'organise.
Et c'était le grand mirage, effectivement, du numérique sur les questions écologiques, où pendant longtemps, l'industrie cultivait cette idée de transparence avec une technologie qui n'aurait pas d'impact sur la planète. On voit que ce soit Philippe Villas-Boas, un artiste qu'on aime beaucoup dans Le Meilleur des Mondes, que vous connaissez bien, qui était déjà venu ici, ou Samuel Bianchini, il y a toujours cette idée, finalement, de rendre visible l'invisible. Et puisque vous parlez de la dimension écologique, on peut quand même y voir quelque chose de positif dans ces différentes manifestations, on va dire numériques, que ce soit des manifestations artistiques ou des manifestations numériques sur les réseaux sociaux, qui peuvent tout de même amener une sorte de prise de conscience, de mouvement collectif, de regroupement des corps, pour reprendre justement le terme qu'on a employé au début de cette émission.
Bien sûr, il y a des enjeux en termes de mobilisation, de mobilisation critique, qui passe par, en effet, cet effort de matérialiser ce qui est immatériel ou ce qui est considéré comme immatériel, au moins d'un point de vue idéologique, c'est le discours dominant. On a affaire à des technologies que l'on ne voit pas, qui ne sont pas perceptibles, qui nous garantissent plus de confort, plus de sécurité, etc. Or, en effet, on a ces artistes aujourd'hui très engagés, très politiques d'une certaine manière, que vous avez mentionné, Philippe Villas-Boas, Samuel Bianchini, qui cherchent à s'emparer de ces technologies pour les détourner, pour les matérialiser, pour y faire face. Comment faire face à des systèmes d'identification? Eh bien, par le rassemblement des corps. C'est la leçon que l'on retient de cette magnifique installation Discontrol Party de Samuel Bianchini. Faire face à l'identification par des corps qui se rassemblent. Mmh. Alors, c'est une façon de jouer. Alors, on pourrait bien sûr dire oui, mais c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que c'est pas un peu dérisoire? Moi, il me semble que le jeu avec la technologie est une façon de garantir un minimum d'esprit critique et un minimum de liberté d'action. On peut faire autrement. Et on peut, comme dans un renversement carnavalesque, finalement, se déjouer du pouvoir et d'une vision très finalement monolithique de la technologie qui est perçue comme un enjeu de consommation.
Alors vous avez juste, je rebondis sur la dimension carnavalesque parce qu'elle est intéressante et en même temps elle en a ses limites, puisque le carnaval était ce moment d'exutoire où justement on pouvait contester l'autorité mais presque dans un terrain autorisé, dans un terrain balisé sur une période donnée. On peut aussi constater que dans la dimension artistique telle qu'elle est menée pour amener un discours technocritique, elle est aussi sur des terrains parfois un peu balisés qui sont institutionnels comme ceux du musée et parfois dans un temps donné, et puis parfois même un peu encouragé par l'industrie elle-même. D'où c'est peut-être cette nécessité de ramener cette contestation artistique dans chaque petit fragment de la vie.
Oui, absolument. Dans les espaces publics, dans la vie quotidienne, mais aussi, je reviens à cette question de la formation des techniciens, dans la formation des ingénieurs, de les inciter à penser que d'autres pratiques technologiques sont possibles et qu'elles peuvent nous engager aussi sur le champ de la perception, sur le champ de la sensibilité. Et j'ai vu, moi, des étudiants ingénieurs changer leur regard sur des dispositifs de contrôle après avoir visité des expositions, après avoir participé à des expositions d'art numérique. Donc, il peut se passer quelque chose en termes de perception pour, finalement... considérer que les technologies, ce n'est pas que de l'instrumentalité, c'est aussi des possibilités de détournement, c'est aussi des possibilités de créativité.
D'où les Fab Labs aussi.
D'où, exactement.
On a les Fab Labs, on a du détournement, on a de la créativité, on a de la rencontre intergénérationnelle, on a cette idée justement d'ouvrir la boîte noire pour mieux la comprendre, vous y croyez?
Absolument. Enfin, j'y crois, c'est pas simplement une croyance, c'est un constat que ces demandes de sens, que ces demandes de réflexion critique et de pratique sont extrêmement importantes. Je pense aussi aux travaux de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, qui était dirigé par Bernard Stiegler. On est là dans des espaces de rencontres de disciplines où on mêle l'art, le design, l'informatique, la philosophie, la sociologie. Et il me semble que ces espaces, ces agencements collectifs sont une réponse au discours un peu catastrophiste et un peu angoissant qui est dominant par rapport à l'environnement.
Ça me fait penser à Cynthia Fleury qui dit que pour justement essayer de lutter contre ce découragement, il faut aller vers ceux qui sont les valeureux, les courageux, aller vers ceux où il y a de la lumière. On voit effectivement qu'on est dans un état, et Marie Turcan va en parler dans un instant, de légère fatigue, que ce soit une fatigue informationnelle ou fatigue tout simplement de nos pratiques numériques, de désenchantement. Et pour autant, est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher de cela, se rapprocher de ceux qui ont encore le courage de faire?
Bien, bien sûr. Se rapprocher de celles et ceux qui font, de celles et ceux qui pratiquent, qui bricolent avec la technologie, qui la réenchantent en quelque sorte, mais pas de façon naïve, hein, de façon très, très critique, dans les Fab Labs, dans les tiers-lieux. Le mouvement des makers, c'est pour ça extrêmement significatif. Et qui est une... Tout cela est une façon de considérer que notre univers technologique n'est pas réductible à sa dimension capitalistique, au capitalisme de surveillance, mais qu'il y a des alternatives possibles qui sont moléculaires, hein, comme disait Deleuze, c'est-à-dire des possibilités de résistance ou de dissidence qui sont évidemment micro, mais qui néanmoins nous permettent de retrouver un peu d'espoir et qui nous permettent de réenchanter un petit peu notre rapport à l'innovation numérique.
Voilà, vous avez cité la molécule qui refait corps, finalement, le corps. On y revient toujours comme étant finalement la dernière barrière qu'on l'espère infranchissable pour pouvoir mieux questionner nos enjeux du numérique. Ce corps, c'est celui de Marie Turcan qui est arrivée fatiguée dans ce studio, Marie. Hein, vous étiez là, vous regardiez par terre, je vous ai vu, vous avez à peine ouvert la porte, vous avez des cernes, vous êtes fatiguée par le numérique, expliquez-nous.
C'est vrai, je suis très fatiguée. Je suis surtout fatiguée mentalement parce que récemment, je me suis demandé est-ce que le web n'est pas devenu un peu chiant ? Excusez-moi pour le langage fleuri, mais c'est un message publié sur Twitter, enfin maintenant on dit X, qui m'a récemment fait tiquer. Un anonyme y écrit...
J'ai 38 ans et je crois que c'est la première fois dans ma vie d'internaute que je trouve qu'il n'y a tout simplement plus rien de fun à faire en ligne. J'ouvre un navigateur et je reste là, les bras ballants, avec nulle part où aller.
Si l'image vous parle, c'est peut-être que vous aussi vous commencez à être atteint de fatigue numérique. Pas au sens physiologique du terme, mais simplement d'un pur symptôme d'ennui sur Internet et ses réseaux sociaux. Il faut dire que le web 2.0 a atteint un certain paroxysme ces dernières années.
Qu'est-ce que vous entendez par là, Marie ?
Alors d'un côté, il faut le dire, Twitter est mort. Il faut se rendre à l'évidence, depuis le rachat par Elon Musk, le réseau social s'est gravement dégradé, techniquement d'abord, mais aussi d'un point de vue social. Sur X, maintenant, les messages qui sont mis en avant sont ceux des internautes qui payent 8$ par mois. Et les internautes qui payent 8$ par mois, ce sont en majorité des conservateurs, des fans d'Elon Musk ou souvent les deux. La streameuse française Maudie a mis les mots dessus hier dans un message.
Je n'arrive plus du tout à tweeter. Depuis qu'on est sur X, avec des certifications bleues qui sont poussées par l'algo et nous pourrissent nos espaces commentaires, un milliardaire à la con nous a pillé notre espace de rencontre et d'organisation militante.
On est dans un langage un peu fleuri sur cette chronique aujourd'hui. De l'autre côté du spectre, il y a TikTok. TikTok qui, en 3 ans, a réussi à imposer un modèle d'engagement complètement verrouillé. Vous ouvrez l'application et l'algorithme vous embarque si et là où il veut. Il a été ensuite copié par Instagram, YouTube, Facebook. Avant même de cliquer sur une de ces applications, en fait, on sait déjà ce qui va se passer. On va découvrir des vidéos jamais vues en ayant pourtant l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Et puis on y retourne encore et encore. En 2021, le comique Bob Burnham en parlait notamment dans sa chanson appelée Welcome to the Internet. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything? Donc comme il le dit ici, l'apathie est une tragédie et l'ennui un crime. Cette surabondance de contenu numérique donne le sentiment qu'il ne peut plus y avoir de plaisir sans frénésie. Mais que se passe-t-il alors si la machine s'enraye et qu'on commence à s'ennuyer mais en ligne. Lorsqu'on n'a plus vraiment envie d'aller lire les fachos sur Twitter, d'ingurgiter la 15e vidéo de chien sur Instagram ou de lire des fake news sur Facebook, eh bien je vous proposerai un peu de lumière, un peu d'optimisme. Et si cette lassitude nous libérait de ces automatismes, nous permettait de chercher des plateformes plus petites, moins bruyantes ou bien simplement de déconnecter. Et si le plus grand acte de résistance en 2023, c'était tout simplement de ne rien faire. Après, indignez-vous, je vous propose donc l'alternative 2.0, ennuyez-vous.
Merci Marie Turcan, on verra si ça a le même succès justement qu'indignez-vous, ce ennuyez-vous. Vous pourriez en faire un manifeste avec un petit livre rouge vendu à côté de toutes les caisses de supermarché. Pierre-Antoine Chardel, peut-être une réaction à la chronique de Marie Turcan. Il y a deux thématiques qui peuvent sans doute vous parler, les réseaux sociaux dans un premier temps, puis cet ennui qu'elle cultive, qu'elle encourage.
L'ennui est quand même une condition de la créativité. Si on ne s'ennuie pas, on est peu à peu moins créatif. J'avais entendu un jour Alain Souchon disant « J'ai commencé à jouer de la guitare parce que je m'ennuyais quand j'étais adolescent ». Donc, en effet, de maintenir des plages d'ennui, des moments d'interruption, des moments de silence, des moments de solitude, c'est bien sûr des conditions là de la création, de l'inspiration.
Vous avez parlé de silence. Ça me fait penser à ce que vous écriviez sur les conditions d'une communication authentique. Vous dites que le silence, c'est l'une, justement, de ces conditions.
Le silence, c'est l'interruption qui nous permet d'être à l'écoute, de se tenir à l'écoute de l'autre. C'est ce qui nous permet aussi de réfléchir à ce que l'on va dire. Le silence est une condition d'une communication qui fait sens. Or, en effet, on est dans une société où... régie par les flux, par des communications à flux tendus, qui nous épuise, hein, ça rejoint ce qui vient d'être dit, qui nous fatigue et qui peut-être aussi parfois nous rend un peu fous.
Je reprends Claude Lévi-Strauss que vous citez dans votre ouvrage qui avance cette idée qui peut sembler comme ça paradoxale, que pour garder quelque chose à transmettre, mieux vaut ne pas trop communiquer.
En effet, avec cette idée que la communication ne fait pas tout, et puis on s'aperçoit dans la société actuelle une confusion qui me paraît très très importante entre l'information et la communication.
Oh, qui est une vieille confusion.
C'est une vieille confusion.
Vous qui avez justement analysé toutes les théories sociologiques de l'école de Francfort, de Théodore Adorno, on est vraiment dans ce
pays-là. Mais elle est particulièrement flagrante, par exemple, dans le monde des organisations. Pour être un petit peu en prise avec ce monde des entreprises et des organisations aussi, on se rend compte qu'il y a une confusion des genres totale entre qu'est-ce que communiquer et qu'est-ce qu'informer. Et ce que j'observe et ce que je dis aussi, c'est que eh bien un mail, c'est très bien pour s'informer, c'est très bien pour se transmettre des informations, mais quand il y a quelque chose à communiquer de complexe, mieux vaut se parler en co-présence, en présence des corps.
En présence des corps, mais donc ça veut dire forcément un rassemblement physique dans la même pièce, dans une unité de lieu, ou ça peut être le téléphone tout simplement.
Ça peut être le téléphone, ça peut être la voix. Hein. Maurice Merleau-Ponty a écrit un très beau texte dans Signe, un recueil de textes où il disait le téléphone peut donner la voix et la voix donne l'être. Donc il était assez optimiste par rapport à ce que le téléphone peut faire à la communication. La voix, évidemment, nous donne quelque chose de l'être, mais on ne pourrait difficilement se passer des corps. On l'a bien vu pendant le confinement, on était toutes et tous devant nos écrans, on se voyait par écran interposé, et on se rend bien compte que le visage à l'écran n'est pas tout à fait le visage, parce que le visage, c'est les corps, c'est la corporéité. Et cette dimension-là, métacommunicationnelle aussi, de toute communication, ce qui peut se passer par le visage, par l'expression.
On le sait très bien qu'en visioconférence, on ne se regarde jamais vraiment dans les yeux. On regarde une caméra, oui, un objectif qui donne un faux semblant de se regarder dans les yeux.
À plus forte raison quand la connexion tout d'un coup est mauvaise et qu'on a l'impression là de spectre, d'avoir affaire plus à un fantôme qu'à une vraie personne. Bon, c'est Jacques Derrida qui disait que les télétechnologies avaient à voir avec une forme spectrale, que les technologies étaient créatrices de spectres.
Ben voilà, et justement, quand on parle de fantômes, parfois on entend des voix. Et donc, c'était la vôtre qu'on a entendue ce soir dans Le Meilleur des Mondes. La voix de Pierre-Antoine Chardel et son ouvrage Sociophilosophie des technologies numériques, éthique, société, organisation. C'est le triptyque qui en fait le sous-titre. C'est paru l'an dernier aux éditions des Mines. Merci d'avoir été avec nous dans ce Meilleur des Mondes. Merci.
Merci beaucoup à vous.
À Marie Turcan, et je lui souhaite un bon rétablissement pour sa fatigue mentale. Merci. Évidemment, je remercie à la préparation de cette émission Juliette Devaux qui s'est plongée dans votre œuvre, Pierre-Antoine Chardel. Je remercie également Béatrice Grégoire, notre stagiaire à la réalisation. Ce soir, nous avions Daphné Leblon à la technique sans Florent Bujon et à l'image, car je rappelle que cette émission est toujours visionnable sur Twitch ou en replay sur la chaîne YouTube de France Culture. Timothée Hubert, Le Meilleur des Mondes, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.